Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour et bienvenue à Marcher vers le bien-être. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'ai de nouveau une question pour vous. La marche fait-elle partie de votre quotidien? Si oui, vous apprécierez beaucoup les témoignages de nos deux invités d'aujourd'hui. Sinon, ils vous convaincront peut-être de donner la chance à la marche de changer le cours de votre vie pour le mieux. Laissez-moi d'abord vous les présenter. En deuxième partie d'émission, nous entendrons l'entretien que j'ai eu avec Guy Vermette lors de ma visite chez lui récemment. Guy se décrit comme un contemplatif qui a profondément intériorisé les bienfaits de la marche à tous les jours et il en parle avec passion et conviction. Mais avant, j'ai le plaisir d'accueillir en studio un bon ami et collègue, Alexandre Perron, pour qui la marche au quotidien est relativement récente. Il s'agit en fait d'une résolution du Nouvel An qu'il a non seulement tenue, mais qui a modelé un mode de vie maintenant axé sur la santé du corps et de l'esprit. Comme quoi, la discipline et la persévérance sont toujours des qualités à nourrir. Sans plus tarder, je vous présente mon premier invité, Alexandre Perron. Alors, nous amorçons notre émission aujourd'hui par un autre puissant témoignage qui démontre l'effet transformateur de la marche au quotidien du point de vue de la santé et du bien-être global. Ce témoignage, c'est aussi l'histoire d'une résolution du Nouvel An qui a non seulement tenu, mais qui perdure. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Alexandre Perron, pour qui la décision de se remettre en marche par la marche a changé beaucoup de choses dans sa vie. Alors, bonjour Alexandre, et merci beaucoup d'accepter de partager votre expérience de remise en marche par la marche.
Mon cher Denis, très heureux de te revoir, de vous revoir en personne en ce début d'année.
Et depuis le temps que l'on s'est vu à cause de la pandémie et tout, c'est un réel plaisir, effectivement. Alors, Alexandre, parlez-nous d'abord de cette résolution du Nouvel An. Pour plusieurs d'entre nous, une résolution du Nouvel An, c'est l'histoire de quelques jours, de quelques semaines. Mais pour vous, je pourrais dire que c'est le début d'une histoire de toute une vie.
Effectivement. Mais en fait, avant de parler de cette résolution, je pense qu'il faudrait donner un petit historique. Je travaille au Conseil des relations internationales de Montréal. Dans le cadre de mes fonctions, il y a énormément de réceptions, de cocktails qu'on doit aller chez nos partenaires. Au fil des années, si on ne fait pas attention, c'est toujours un petit four, un petit verre de vin, et on saute dans un taxi, on va dans un autre taxi. Après une année, on ne voit pas la différence. On a peut-être pris 5 livres, mais quand ça fait 10 ans qu'on travaille au même endroit, on se ramasse rapidement avec un 50 livres. Et je me rappellerai toujours, c'était le jour de Noël, 25 décembre 2018. Je pense que ma conjointe avait pris une photo, on était en famille, pour la famille. Et quand j'avais vu la photo, je ne reconnaissais pas la personne que je voyais sur la photo. Il y avait une image mentale que j'avais de moi-même, mais quand je voyais la photographie, mais qui est cette personne?
J'ai vu cette photo et je ne vous reconnaissais pas tout à fait non plus.
Non, effectivement. Alors, je dirais que c'est à ce moment-là, et aussi j'avais une jeune famille, une petite fille, Maggie, et une deuxième fille qui était en chemin. Alors, je dirais vraiment, ça a été un bouleversement, ce moment-là. Et il faut dire aussi, c'était un amalgame de choses. J'allais tourner 39 ans et je me suis dit, écoutez, c'est l'occasion peut-être de choisir quel élan donner pour la quarantaine. Est-ce que je poursuis dans ce chemin-là à coup de 5 livres par année jusqu'à ce que mort s'en suive ou on bifurque puis on prend un autre chemin? Alors, on arrive le 3 janvier où est-ce que justement on parle de résolution. Mais moi, je savais pour tenir un chemin, pour tenir une résolution, il fallait qu'il y ait des assises solides. Les deux qui ont été très clairs pour moi, un, c'était bien sûr l'alimentation. Mm-hmm, il a fallu, bien sûr, changer beaucoup de choses dans l'alimentation. Mais ensuite, le transport actif. parce que moi, j'habite sur le plateau Mont-Royal, à Montréal, et c'est quand même facile, malgré la proximité des endroits, par contre, de toujours prendre un autobus, un métro, un taxi, et prendre, même quand les distances peuvent être marchables, si on peut dire, on finit toujours par attendre, je vais attendre le prochain autobus qui passe, je vais apprendre. Alors là, moi, j'avais décidé de changer complètement cette approche-là et de dire non, je dois retourner au transport actif. C'est-à-dire aller à la garderie, porter mes enfants à pied, aller faire mes courses à pied, aller voir mes amis à pied et changer cette approche-là parce qu'on ne s'en rend pas compte souvent, on a l'impression qu'on court après le temps. Mais finalement, c'est juste que s'installe petit peu la paresse de faire déplacements. Et finalement, quand on réalise que finalement, non seulement on ne perd pas de temps à la marche, mais on en gagne, si on pourra en revenir un peu plus tard. Alors, pour moi, ça a été vraiment un élément déclencheur. Il fallait que j'assure des transports actifs par la marche pour mes déplacements.
Donc, le plan de match pour la résolution du nouvel an, il est double, l'alimentation et le transport actif. Parlons un peu d'alimentation parce que nous travaillons ensemble au Corim. J'ai le plaisir d'animer certaines des conférences. Vous y êtes directeur aussi. Donc, nous nous connaissons depuis plusieurs années et je vous ai vu petit à petit prendre ce poids supplémentaire. Mm-hmm. Et puis, après un an et demi, je vous ai revu et c'était pas le même homme, là. C'était svelte. Vous aviez perdu je ne sais pas combien de kilos. Comment on fait au niveau de l'alimentation pour se contrôler, pour ainsi dire? Est-ce que c'est un choix d'aliments? Est-ce que c'est une routine? C'est un calcul quotidien? Comment on fait par l'alimentation?
Moi, ça a été... faut dire que les technologies de l'information aujourd'hui, c'est phénoménal. On trouve de tout pour nous aider. Et dans mon cas, sans vouloir faire une promotion directement, mais il y a une application qui s'appelle Fat Secret. Fat Secret est comme une encyclopédie de tous les aliments qui existent. Alors moi, je savais que je n'avais pas le choix parce qu'à un moment donné, dans sa tête, on se dit j'ai pas abusé. C'est que il fallait que je calcule tout ce qui était ingéré. Et ne pas faire fi de une cuillère à thé de plus, une cuillère à thé de moins. Est-ce que c'est un deuxième verre de vin? Est-ce que c'est un troisième verre de vin? Pour ensuite comprendre la dynamique alimentaire qu'on a de façon hebdomadaire.
C'est une grande discipline, dans le fond.
Ben, en fait, c'est de comprendre. Par exemple, par exemple, un des premiers changements que j'avais opéré au niveau du café le matin, j'aime beaucoup un cappuccino. Mais on n'est pas obligé de mettre une cuillère et demie de sucre dans son cappuccino. Ensuite, on se dit, ouais, c'est juste une cuillère à thé de sucre, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est une cuillère à thé multipliée par 365 jours, multipliée par tous les changements qu'on effectue au fil de la journée, qui réussit à faire des kilos de sucre qu'on emmagasine dans son corps par année. Mais tant qu'on ne le voit pas, c'est pour ça que moi, ça a été très utile d'avoir une application comme Fat Secret, parce que je voyais en rentrant tous les aliments que je consommais, qu'est-ce que ça voulait dire. Alors, quand on commence sa journée, on pense qu'on n'a presque rien mangé, mais qu'on est déjà à 1200 calories en se levant le matin parce qu'on a pris des rôtis au beurre d'arachide avec du fromage à la crème, des tomates, un verre de jus d'orange, cappuccino avec une cuillère et demie de sucre. On s'en rend pas compte à quel point ça peut être quand même énorme par rapport aux besoins alimentaires qu'on a dans une journée.
Donc, c'est surtout un calcul de calories?
C'était un calcul, mais aussi, plus qu'un calcul de calories, c'était une prise de conscience de la valeur des aliments qu'on consomme. Parce qu'ensuite, on peut manger beaucoup, mais on ne peut pas manger n'importe quoi. Mm-hmm. Ensuite, on peut se faire plaisir, mais on ne faut pas se faire plaisir à outrance.
Et parfois, on peut « oublier », entre guillemets.
Ça, c'est l'aspect le plus difficile. Ça, honnêtement, là. Ouais.
Revenons au transport actif.
Oui.
C'est pour vous la deuxième partie de votre plan de marche. Comment ça s'est manifesté au jour le jour? Vous vous êtes mis à marcher où, comment, quand?
Bien, comme on en parlait avant l'entrevue, souvent les gens ont l'impression qu'il faut commencer puis c'est une montagne à gravir. Bien sûr, on entreprend quelque chose, il ne faut pas se dire qu'on va immédiatement sauter au Mont Everest pour marcher. On va commencer par Mont-Saint-Bruno, on va peut-être aller au Mont-Harford, et ensuite, on verra ce qui suit. Dans mon cas, ça a été principalement de s'assurer des déplacements vers la garderie ou vers l'école, d'aller les faire à pied. Avant, j'avais toujours l'habitude de faire presser mes enfants en sachant à quelle heure l'autobus allait passer pour prendre cet arrêt-là. Mais quand on se rend compte que finalement, on met du stress aussi sur les enfants pour l'atteinte de l'autobus, et la différence entre y aller à pied et y aller en autobus, finalement, est une différence de 5-6 minutes. En fait, c'est pas les enfants qui le demandent. C'est plus nous, comme adultes, qu'on se dit qu'on n'a pas le choix parce qu'on manque de temps. Mais à la fin, je le fais depuis maintenant plus de 3 ans avec ma plus vieille, puis de 2 ans avec ma plus jeune. Et jamais, ils m'ont jamais remis en question, « Papa, pourquoi qu'on marche? »
Est-ce qu'elles aiment ça?
Oui.
Parce que ça vous permet de parler, de vous rapprocher?
Effectivement, c'est du temps ensemble. C'est du temps où est-ce qu'on...
Du temps de qualité.
On se tient par la main, puis qu'on peut discuter, on passe à travers un parc, on voit aussi des amis. Mm-hmm. C'est sûr que l'espace qu'on utilise, la géographie de proximité change une fois aussi qu'on se met à marcher. On n'est plus en transit pour aller à un point A à point B. C'est qu'on participe un petit peu à la géographie en marchant, par où qu'on passe. Fait que nécessairement, on croise des gens qui sont nos voisins. Ça change toute une dynamique. C'est vraiment difficile à expliquer, de le mettre en termes de mots, mais c'est vraiment par la pratique, je dirais, quotidienne, régulière, qu'on voit les bienfaits, et on peut pas les définir à chaque instant. C'est pas à n'importe quelle sortie de marche qu'on va faire une rencontre ou qu'il va se passer un éclair de génie. Sauf qu'on sait que si on ne le fait pas sur une base régulière, ces bienfaits-là vont être plus difficiles à discerner.
Et pour ce qui est de l'épicerie et les autres courses, la journée, c'est un peu la même chose aussi. Vous vivez quand même dans un quartier qui le permet, j'imagine.
Oui, tout à fait. Mais même si le quartier le permet, je dirais que j'ai quand même beaucoup de connaissances qui se sentent obligées d'y aller en voiture en disant « l'épicerie, c'est trop lourd », parce que ça change. C'est une dynamique qui est différente aussi. Par exemple, moi, je peux aller à l'épicerie 3 à 4 fois par semaine, mais c'est toujours sur le chemin, dans quelque part, que je vais et je ramène un sac. Je ne vais jamais faire l'épicerie pour 8 sacs d'épicerie que je vais traîner comme un mulot. C'est vraiment une dynamique différente qui s'installe. Par exemple, avec la pandémie, on était beaucoup en télétravail.
Oui.
Alors moi, ça me permettait souvent, quand j'allais porter mes enfants à l'école et à la garderie, en revenant, faire un petit crochet en passant par telle épicerie pour aller chercher quelques trucs et revenir à la maison. À la fin, ça fait en 15 minutes les choses sont 15 minutes supplémentaires, les choses sont réglées, versus de décider, là, jeudi soir, il faut que j'aille à l'épicerie, prendre la voiture, tout faire d'un coup. C'est vraiment des dynamiques qu'il faut apprendre à installer. Parce que c'est à la fin de la journée, on a toutes le même 24 heures, mais c'est de savoir comment on en dispose. Et si on veut effectuer des changements comme celui que j'avais décidé à la fin de 2018, il faut nécessairement adapter son 24 heures.
Et le travail dans tout ça, vous marchez maintenant au travail ou vous avez fait du jogging aussi ou même du vélo pour aller au travail, mais surtout la marche maintenant?
Surtout la marche. Mais le jogging aussi. Ce qui est fascinant, c'est que malgré que ça fait 13 ans que je travaille au centre-ville de Montréal, j'ai simplement commencé il y a à peine 2 ans à me dire, c'est quoi, je pourrais y aller en jogging. Parce que je me suis toujours dit, ouais, c'est trop loin, avec le trafic, ça peut être dangereux. De se changer au bureau. Et finalement, même l'hiver, j'ai commencé à y aller en jogging et ça rend les choses beaucoup plus agréables quand on arrive au travail par la suite.
Et la marche aussi pour aller au travail?
La marche surtout.
C'est venu après?
La marche, c'est venu un peu dans le... À chaque fois qu'on essaie de faire des gains, où est-ce que je peux mettre le transport actif?
Ah oui.
Parce que d'habitude, justement, au travail, pour se déplacer vers une organisation, vers une réception, on va y aller en taxi parce que c'est la chose à faire qu'on se dit. Mais un moment donné, on se rend compte, mais tu sais quoi? C'est même pas 1 kilomètre, je pourrais le faire à pied. Mais c'est des changements qui tranquillement, petit à petit, qu'on instaure. Et des fois, ça peut sembler contre-intuitif ou contre-productif parce que on est tellement habitué de faire les choses d'une certaine façon. Et surtout dans comme on parlait dans certains milieux, si on y va à pied, on peut donner l'impression, mais voyons, tu peux y aller en taxi, je vais le payer, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de comment on utilise son 24 heures dans la journée pour insérer au maximum un transport actif qui est bénéfique au fil de toute la journée.
Et comme vous disiez, c'est parfois plus rapide à pied qu'en auto quand même.
Tout à fait. Au centre-ville de Montréal, faut dire qu'au centre-ville de Montréal, on est à peu près à 2 km à la ronde de tout ce qui est le centre-ville. Alors souvent, les endroits qu'on doit se déplacer sont à moins de 2 km. Ça peut sembler des fois difficile de pouvoir s'y rendre à pied, mais souvent, quand on s'en rend compte, quand on parle d'heures de pointe, le trafic, trouver du stationnement, aller payer le stationnement, s'en aller, on est déjà arrivé depuis longtemps en se rendant à pied.
Alors, Alexandre, on prend une courte pause et on revient parler de, justement, l'utilisation du temps quand vous marchez pour aller et revenir du bureau. Nous sommes en compagnie d'Alexandre Perron. Nous parlons justement de l'utilisation du temps pendant la marche. Qu'est-ce que vous faites quand vous marchez au bureau?
Mais ça, c'est très intéressant parce qu'on parlait au début, quand je mentionnais qu'on a l'impression des fois de perdre du temps si on y va à pied. Moi, avec le temps, je peux dire honnêtement que j'ai gagné du temps. Pourquoi qu'on gagne du temps? Parce que les 45 minutes que je marche, et comme on parlait aussi avec l'avènement des technologies d'information phénoménales, moi, je suis toujours, pendant le temps de ma marche, en train d'écouter des balados, ce qu'on veut dire souvent, des podcasts en anglais, où je vais écouter que je peux déjà télécharger. Alors ça, c'est un temps que je n'avais jamais dans ma journée. Parce que jamais je prenais un 30-35 minutes pour écouter un balado en se disant, le soir, j'ai pas le temps, les enfants. Mais en utilisant la marche comme transport actif, ensuite, je peux me mettre à écouter des balados que sinon, je ne prenais pas le temps d'écouter. Parce que souvent, quand on est, disons, en transport en commun, qu'on soit en autobus ou qu'on soit en autobus ou en métro, les distances sont quand même courtes. À chaque 10 minutes, il faut faire un geste, un déplacement. Fait qu'on n'a pas la concentration. Fait que c'est là, généralement, que les gens vont écouter plus de la musique avec des morceaux de 5 minutes. Un balado de 30 minutes peut être compliqué quand il faut se déplacer à Berry-UQAM pour s'en aller chercher son autre train, éviter de frapper quelqu'un en même temps qui rentre en même temps que toi dans l'espace. Fait que la marche pour se rendre, que ce soit au travail ou aux autres endroits, te donne une période de 30 minutes qui donne plus de temps pour écouter des balados qui ne sont pas des clips de 3 minutes. Par exemple, bien sûr, ces temps-ci, j'écoute beaucoup tout ce qui est relié à l'Ukraine, situation tragique, mais ça me permet d'aller découvrir des gens qui vont ensuite donner une perspective historique à cette situation-là. Alors, c'est des choses qu'on ne peut pas malheureusement découvrir dans des clips de 2-3 minutes.
Et ça vous permet d'y réfléchir en même temps, j'imagine.
Mes meilleures idées, j'avais déjà dit à mon patron qu'on devrait vraiment payer à tout le monde un espèce d'abonnement sportif. Mes meilleures idées sont toujours venues, soit pendant la marche ou soit pendant ma natation. Je ne sais pas pourquoi, mais les éclairs de génie sont généralement associés pendant des moments sportifs.
Et c'est le jogging, la marche, le vélo, quoi que ce soit, mais toujours un événement sportif, une activité sportive.
Tout à fait.
Est-ce que vous téléphonez beaucoup? Est-ce que vous travaillez en marchant?
Très bonne question, oui, effectivement. Ça a permis aussi de régler beaucoup de choses. Souvent, que pendant ce transport actif-là, si j'écoute pas un balado, je peux prendre un 15-20 minutes pour faire les appels. Et les gens, aujourd'hui, sont très confortables. Avant, je dirais, on se gardait, peut-être avant la pandémie, on se gardait peut-être une petite gêne de ne pas être en train de faire l'appel directement de son bureau dans un environnement contrôlé. Parce que, bien sûr, quand on appelle, disons, puis on est est en train de traverser l'avenue Rachel ou n'importe mm-hmm. quelle, les gens peuvent entendre qu'il y a un autobus qui passe, qu'il y a du trafic. Mais aujourd'hui, je dirais qu'avec l'avènement du télétravail, pour les masses, les gens ont compris que le fait d'être en déplacement ou ne pas être dans son bureau n'enlève rien à la qualité de l'appel ou de la conversation.
Donc, vous réglez beaucoup de choses en marchant?
Beaucoup. Beaucoup. Et c'est un temps qui est très utile pour ça.
Y a-t-il une différence entre votre marche du soir et la marche du matin?
C'est une très bonne question. La marche du matin est comme une beaucoup plus orientée méditation, je dirais. Ouais. Elle est orientée sur de planifier un peu comment on voit sa journée. Comment ça peut se dérouler? Comment je peux arriver à régler plusieurs choses? La marche de fin de journée est beaucoup plus une période de repos. Là, j'avoue que mon cerveau on met la switch à off pour ensuite juste profiter qu'on a eu tellement absorbé d'informations pendant la journée que là c'est peut-être le temps de se reposer un peu.
Vous parliez de votre perception plutôt des distances qui a changé.
Ah, tout à fait. La première, si je dois être complètement honnête, c'est avec Bixi. Bixi, pour moi, a changé la géographie de proximité pour la ville de Montréal. Parce que souvent, on est habitué de penser en termes de les lignes de métro, les lignes d'autobus. Et là, finalement, j'ai toujours été un très grand partisan de Bixi. Je pense que je fais plus de 5000 kilomètres par année en Bixi. Ouais. Mais c'est que ça te permet de redécouvrir dans une géographie un peu plus large que la marche des distances qui sont pas si grandes que ça finalement. Par exemple, ça m'arrive des fois pendant l'été de partir juste un 45 minutes parce que vous savez, si vous êtes un membre annuel, un abonné annuel de Bixi, vous avez le droit à une période de 45 minutes. Mais de chez moi, 45 minutes, je peux partir, prendre le pont Jacques-Cartier, descendre à l'île Sainte-Hélène, faire le tour, revenir et c'est 45 minutes. Quand on y pense au début, on pense, mais non, aller à l'île de Sainte-Hélène, c'est long, il faut le planifier. Non, c'est pas long. De chez moi, me rendre au pont, c'est 15 minutes. Ensuite, on fait un tour, c'est un autre 15 minutes, et on rentre à la maison.
La marche, c'est un peu pareil. On s'imagine que 4, 5, 6 kilomètres, c'est loin, mais c'est pas loin du tout.
Ce qui m'amène à une question pour vous, Denis, quand vous traversez le pont Jacques-Cartier. Comment vous le voyez quand vous commencez à traverser? Parce que souvent, le pont Jacques-Cartier, on se dit quand même en voiture, c'est pas long, mais le pont Jacques-Cartier fait quand même plus de 4 km de long. Comment vous le voyez quand vous le traversez?
C'est presque un gymnase.
Oui.
Et j'explique parce que je quitte ma résidence de Longueuil, je marche au métro Longueuil, c'est une durée d'à peu près 30 minutes. Et ensuite, l'été, évidemment, je marche parfois le pont Jacques-Cartier. De l'autre côté, je marche jusqu'au centre-ville. Et c'est bizarre parce que la perspective est complètement différente. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le Saint-Laurent, on voit les îles, on voit la verdure. Et c'est vraiment un moment privilégié de relaxation, de changer de mode de pensée. Et j'aime beaucoup le pont Jacques-Cartier. J'avoue que lors des heures de pointe, c'est un peu plus difficile. Disons qu'il y a beaucoup de bruit, il y a des émanations de gaz et tout. Donc, c'est un peu moins agréable. Et parfois, je bifurque vers l'île Sainte-Hélène et je vais prendre le pont de la Concorde pour arriver au centre-ville. C'est un peu plus long, mais tellement agréable de passer par le parc Jean-Drapeau. Ce qui m'amène, retour de question, vous parliez du Mont Orford. Je pense qu'il y a eu, il y a quelques années, ou il n'y a pas si longtemps, une journée mémorable que vous avez passée au Mont Orford.
Oui, c'est quand on parlait des bienfaits de la marche, mais c'est aussi faire une prise de conscience. Et parce qu'on discutait une fois moi, j'ai grandi à Magog, Et la montagne de Morford fait partie de la vie de la région Magog-Orford. Mais on se rend toujours à la montagne en voiture. Et on se déplace là, souvent on se rend en voiture. Ensuite, on décide de monter peut-être à pied. Il y en a beaucoup qui vont prendre les gondoles pour monter la montagne. Mais moi, j'avais décidé de le faire à pied directement de chez moi à Magog jusqu'au sommet de la montagne, aller-retour, pour voir un petit peu l'ampleur de plus, qu'est-ce que ça impliquait. Mais ça a pris quand même 9 heures.
Bonne journée.
Fait que souvent, ce qu'on pense, la montagne, c'est à 10 minutes. C'est vrai que c'est à 10 minutes en voiture qui roule à 90 km/h. Mais si on décide de marcher, c'est très beau parce qu'il y a des sentiers qui sont aménagés jusqu'à la montagne, qui ensuite, on peut prendre la 4 km pour se rendre jusqu'au sommet. Mais c'est plus avoir une espèce de communion avec l'environnement immédiat plutôt que de toujours être en transit, comme on parlait un peu plus tôt.
C'est ça qui a transformé votre relation à l'environnement. Les sens, on goûte davantage la nature.
J'ai toujours été, vu que j'aime avoir grandi dans la région Magog-Orford, ça a toujours été quelque chose que j'ai adoré. Mais je pense que c'est ça. C'est que plus qu'on vieillit, généralement, on utilise le temps comme... Et on fait sauter souvent des périodes de transport actif en se disant que c'est là qu'on gagne du temps puis qu'il manque de temps. Mais là, petit à petit, on perd un peu cette communion-là avec l'environnement qu'on a. Et surtout, quand je dirais à Montréal, ça peut être très facile de perdre cette communion-là. Parce que sinon, si on ne se rend pas dans les parcs, si on ne se rend pas au Mont-Royal, c'est sûr que ça peut être très difficile ensuite de communier avec son environnement immédiat.
Est-ce qu'il y a d'autres bienfaits que vous avez ressentis de la marche?
Les bienfaits, je dirais, c'est premièrement de changer, d'avoir une prise de conscience sur l'utilisation du temps. Parce qu'à un moment donné, si on veut faire des changements, tu sais, les gens disent « Ah, j'aimerais ci, j'aimerais ça », mais à la fin, c'est ton 24 heures que tu utilises dans la journée. Si tu n'insères pas par exemple, comme moi, le transport actif, premièrement, qu'est-ce qui est affecté? La créativité. Premièrement, parce que c'est du temps que tu n'as plus à soi, justement, pouvoir écouter des balados avec des gens qui vont te stimuler ou être juste dans tes pensées. Pendant que tu marches, c'est souvent ça qui arrive, que ce soit la marche ou la natation. C'est souvent une période que, pour moi, très effervescente au niveau cérébral, où est-ce que les idées fluent, il y a un flux continu d'idées. Il y en a plusieurs qui... Mais si tu ne l'as pas, ce moment-là, il est difficile de l'avoir, ce flux-là. Parce que j'ai rarement, je dirais, j'ai pas souvenir, en tout cas, d'avoir eu une bonne idée en étant dans le trafic, en attendant. Non, j'ai jamais eu. Ça m'est jamais arrivé.
En terminant, Alexandre, le plus difficile dans le changement de train de vie quotidien, ça a été quoi? Parce que c'est une transformation quand même assez importante, là.
Je mentirais pas, le plus difficile, c'est de garder le cap. Parce que souvent, je sais pas si c'est si c'est la paresse, mais souvent, on est comme, on s'attire soi-même vers des vieilles habitudes. Et de vouloir changer ces habitudes de façon pérenne, j'avoue qu'il est là pour moi, il y a quand même un défi, que ce soit l'alimentation ou la marche, parce que souvent, on veut toujours revenir. C'est quoi cette fois-là? Je vais prendre le taxi. Cette fois-là, il va me faire plaisir. Il n'y a aucun problème, mais c'est de garder cette vision de par exemple de la marche comme transport actif, comme élément central. Mais tu sais, on est tous humains, on a tous nos forces, nos faiblesses. C'est sûr, des fois il part la tentation de revenir, tu sais quoi, je pense que mais je suis quand même très heureux. Ça fait plus de 3 ans et je maintiens le cap.
Alors, Alexandre, on vous remercie beaucoup d'être passé au studio pour nous parler de votre nouvelle vie et on vous souhaite beaucoup de succès.
Merci beaucoup, Denis. Merci. Ça fait un plaisir d'être avec vous.
À bientôt.
Au revoir. Thank you.
Alors, bonjour Guy et merci beaucoup de nous accueillir chez vous pour cet entretien sur la marche au quotidien. Je le mentionnais en ouverture d'émission, vous êtes un grand marcheur et prodiguez de judicieux conseils pour la préparation psychologique à des pèlerinages tels que Compostelle et aussi sur le retour de ces longues randonnées. Mais aujourd'hui, c'est de la marche au quotidien dont j'aimerais m'entretenir avec vous. Alors, tout simplement, Guy, que représente pour vous la marche au jour le jour?
Ben bonjour, Denis. Ça me fait bien plaisir de faire partie de cette rencontre portant sur la marche. En fait, je ne suis pas vraiment un grand marcheur, si ce n'est que je mesure 6 pieds 1. Donc, la marche est devenue importante dans ma vie. Je marche tous les jours. Je marche en moyenne 2 heures par jour, les fins de semaine davantage. Et je marche régulièrement comme ça depuis 2018. Avant, je marchais fréquemment, mais depuis 2018, c'est vraiment une marche régulière. Et l'importance que ça a dans ma vie, c'est devenu aussi important que de dormir et de manger. Dans le sens que ça fait partie de mon bien-être et de ma santé, de prendre soin de mon corps, de mon cœur, de mon esprit, en allant dans cette période de la journée où je me retrouve avec moi-même, où parfois je vais à la rencontre de d'autres, mais à me faire plaisir et à me faire du bien.
Est-ce que vous marchez seul ou avec d'autres?
Habituellement, je marche seul. Même, je dirais, 90% des fois, je marche seul. Mais durant la pandémie, il m'est arrivé régulièrement de marcher avec un ou l'autre de mes enfants. Au Mont-Royal, au parc Angrignon, au parc ici... Antique, le parc de l'île de la Visitation, et qui est souvent dans des marches à peu près de la même durée, d'une heure, 32 heures. Et là, c'est vraiment un autre type de marche, un autre type de marche où, tu sais, au lieu d'être attablé avec un de mes enfants, on se partage nos vies respectives là, en marchant l'un à côté de l'autre. Et c'est des moments vraiment très agréables.
Ah, c'est intéressant. Est-ce que vous partagez davantage en marchant qu'autour de la table? C'est complémentaire? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux?
C'est plus... La conversation dans la marche... Tu sais, on peut rester 2 heures autour d'une table, mais à la table, on est susceptible, des fois, d'être un peu dérangé par le contexte dans lequel on est. La marche, c'est comme si on est imbibé dans la nature lorsqu'on marche dans un environnement qui est agréable, qui est inspirant. Mm-hmm. Et même sur le Mont-Royal, sur le chemin Homestead, qui a quand même beaucoup de monde, habituellement, lorsqu'on l'emprunte et on est ensemble, ça ne nous distrait pas d'avoir des gens autour. On est vraiment, tu sais, à la table, on a quand même une certaine distance.
Oui.
Dans la marche, habituellement, on est un à côté de l'autre. Là. On a une proximité qui est agréable à nourrir, tant physiquement que sur le plan du propos qui est entretenu, là, qui est partagé mutuellement.
Est-ce que vos enfants partagent le même plaisir à marcher?
Ben, j'en ai 3 sur les 5. Je père de 5 enfants. Et j'ai 3 de mes enfants avec qui j'ai pris plaisir à marcher à plusieurs reprises là, au fil des dernières années et plus particulièrement durant la période de pandémie même.
Alors, au jour le jour, c'est les courses, c'est marcher vers le travail, les obligations?
Non, ben ça, effectivement, c'est intéressant que vous le nommiez parce que tout prétexte est à la marche. Dans le sens, je dirais qu'il y a 5 dimensions dans ma marche au quotidien. La première dimension, c'est de vaquer à ses occupations. Tu sais, c'est des marches de petits pas que j'appellerais.
C'est juste.
Oui. Tu sais, dans un appartement, un peu à l'extérieur de son appartement, on vague à nos occupations et on peut faire quand même plusieurs centaines de pas à vaquer à nos occupations comme ça. L'autre type de marche, c'est de faire des courses. Mm-hmm. Des courses en marchant.
Oui. Tout à fait.
Donc, puis ici, dans Antique, on a le privilège d'avoir une rue commerciale. C'est une vie communautaire dans un quartier où tout peut se, on peut se satisfaire à peu près de tout, à peu près à 15 minutes de marche. Donc, ça, c'est un autre type de marche. Et ça, on peut faire facilement un 2000, 3000 pas dans une journée en allant à l'épicerie, en allant à la pâtisserie, en allant à la pharmacie. Donc, ça, c'est un deuxième type de marche. Un troisième type de marche que je vis, c'est ma marche plus régulière, qui peut varier dans la journée sur le plan de l'espace-temps, mais que je fais souvent en deuxième partie d'après-midi. Et là, je pars pour 2 heures. Habituellement 2 heures, les fins de semaine, 3 heures même. Et j'ai le privilège d'habiter à côté, à proximité, 3 minutes de marche de la rivière des Prairies. Donc, c'est vraiment un environnement nature qui est vraiment très inspirant. Et donc, je me promène de parc en parc, de l'île de la Visitation et même jusqu'au parc des Prairies. Pas à la marche pour le parc des Prairies, mais ce que je peux faire des fois, c'est de prendre mon scooter. J'ai un scooter 49cc, j'ai plus de voiture, j'utilise le transport en commun puis le transport collectif. Et mon scooter, je peux aller au Bois de Liesse ou au parc des Prairies en scooter, stationner le scooter et de marcher pendant 1 heure et demie de temps dans ces forêts-là qui sont quand même à proximité. On a le privilège à Montréal d'avoir quand même plusieurs parcs où on peut vraiment marcher pendant un bon bout de temps.
La nature vous inspire beaucoup?
Beaucoup, beaucoup. Moi, je suis un banlieusard d'origine. Pas d'origine parce que les 18 premières années de ma vie, j'ai demeuré à Vélémar. Mais même petit, j'aimais prendre mon vélo à 12 ans, m'en aller sur le bord du fleuve à Verdun, puis admirer la beauté du fleuve. Et lorsque j'ai pris la première maison qu'on s'est achetée en 1977, ça a été à l'île Bizarre. Et on est demeuré dans l'West Island pendant 35 ans. Et j'ai vécu dans un environnement bucolique avec beaucoup de nature, avec le Cap Saint-Jacques qui était très inspirant, la forêt dans le milieu de l'île Bizarre, la proximité du lac des Deux-Montagnes. Mais depuis que je suis à Antique, j'ai jamais été nostalgique de ce caractère bucolique du West Island parce que je suis au paradis. En fait, j'ai tout. J'ai la proximité des services en termes de métro à 5 minutes. Je suis à côté à 5 minutes de la rivière, des parcs riverains, donc avec une rue commerciale dans laquelle on peut répondre à tous nos besoins et qui sont, à mon avis, des solutions beaucoup plus justes et souhaitables que les Amazones de ce monde. Donc, de pouvoir vraiment contribuer à cette vie de quartier et en mettant à profit à tous les jours, qu'il y ait de la pluie, de la neige, du verglas. Les 3 dernières années, j'ai rarement vécu des journées sans marcher. Vraiment de bonnes périodes.
La nature vous inspire donc, vous méditez beaucoup lorsque vous marchez?
Oui, en fait, je suis un contemplatif de nature. J'ai une capacité assez spontanée et présente depuis longtemps de m'émerveiller devant la nature. Et ce que la marche quotidienne et prolongée me procure, et ça je ne l'ai pas vécu rapidement, ça a pris quand même un certain temps, là. Je dirais même probablement une bonne année à marcher tous les jours, avant de me rendre compte qu'il y avait un apaisement qui se créait après à peu près une demi-heure de marche. Et que là, je rentrais dans un espace de méditation où là, mon esprit s'apaise, les idées peuvent se manifester spontanément, de manière très intuitive, et des fois de manière surprenante, parce que ça peut amener des éléments de réponse à des questions que je pouvais me poser, que je ne me pose pas en marchant, mais dont les réponses se manifestent pareil. Donc, oui, c'est vraiment très salutaire. Et je trouve que la nature contribue à cet élément méditatif parce que c'est un exercice de présence à l'instant présent. Tu sais, on n'est pas hier,
oui.
On n'est pas oui. demain, on est, je suis, à prendre plaisir à mettre un pas devant l'autre, à regarder l'ergousier que je viens de passer et que les fruits sont encore tout orange, à oui. regarder ça peut être une fleur, ça peut être une limace. Bon, c'est comme si les sens étaient aiguisés. Que ce soit sur le plan sonore, sur le plan olfactif, que ce soit sur le plan visuel ou même sur le plan du toucher, à un moment donné, tous nos sens deviennent vraiment saillants et ça contribue à faire en sorte que le mental qu'on a entre les deux oreilles prend congé. Et c'est vraiment très, très, très agréable. Je le souhaite à tout le monde. Je pense que l'être humain est fait pour marcher.
Oui.
Tu sais, la sédentarité qui s'est manifestée là, 4000 ans à peu près, a progressivement, au fil des siècles, créé un environnement avec des tables, des chaises, des bureaux, des autos, des ordinateurs, des télévisions. Et tout ça a contribué à nous asseoir.
Nous asseoir littéralement.
Alors que le corps est fait pour marcher.
Oui, oui. Vous marchez sur les pistes ici qui sont merveilleuses, j'ai vu l'autre jour. Vous rencontrez des gens, vous leur parlez, leur souriez.
Oui, ben en fait, depuis, je l'ai commencé systématiquement durant la pandémie parce que il y a eu une augmentation importante de marcheurs durant la pandémie. Tu sais, le Legault le disait à un moment donné, allez marcher, mais en même temps, il disait aux personnes âgées, rentrez chez vous.
Oui,
c'est... Tu sais, c'était un peu comme paradoxal comme message, mais effectivement, on est nombreux à marcher, pas quotidiennement, mais j'en rencontre un certain nombre tous les jours. On est tous des marcheurs quotidiens et que les gens marchent quotidiennement ou pas, je dis bonjour aux gens. Et sans exagérer, sur le bord de la rivière,
oui, oui.
99 % des gens répondent bonjour avec le sourire.
Vous amorcez des conversations des fois? Ou
à l'occasion, je dirais qu'il y a peut-être une dizaine de personnes que j'ai côtoyées au fil des semaines, des mois, des années, qui sont devenues des personnes d'agréable compagnie. Où on peut échanger un peu, mais tu sais, on n'échange pas longtemps parce que nous sommes mutuellement inscrits dans notre marche quotidienne. Puis des fois, c'est un couple, des fois, c'est oui. une personne seule. Mm-hmm. Mais je reprends ma marche habituellement, peut-être une dizaine, une quinzaine de minutes après avoir socialisé. Et c'est souvent pas une socialisation de l'ordre de la banalité là, du baliverne.
Mm-hmm.
Des fois, c'est sur des enjeux, des préoccupations que de part et d'autre, on peut se partager.
Parce qu'on prend le temps de réfléchir.
Mais tu sais, tantôt, je me suis arrêté à la troisième... pas en troisième ou quatrième,
oui.
je t'ai rendu, mais il y a d'autres types de marches également auxquelles je m'adonne et que j'ai fait, entre autres, avec mes enfants. C'est des randonnées. D'aller au Mont-Saint-Bruno, au Mont-Saint-Hilaire, au Mont-Sauteuil.
Okay, OK, on va reprendre.
Aller passer 6 heures de marche.
Alors, Guy, on parlait de marche au quotidien en ville ici, mais vous parlez aussi de randonnées. Vous aimez beaucoup les randonnées, avec
oui.
vos enfants aussi.
Oui, ça, c'est un autre type de marche, effectivement. C'est sûr que j'ai plus de voiture, mais que lorsque je pars pour une marche de type randonnée, ben, je me loue une voiture comme une auto et je le fais avec des amis ou avec certains de mes enfants. Et là, c'est vraiment la randonnée. Là, on part pour la journée et on va au Mont-Saint-Hilaire, Mont-Saint-Bruno, Mont-Sautun. Et on peut prendre la journée un peu comme sur Compostelle où on se retrouve à marcher pendant 6 heures, 7 heures. Et, il y a une fois, il y a 3 ans, on avait marché 8 heures de temps, là, ma fille, ça que son conjoint et moi. Et dans un arbre, on n'a pas le sac à dos lourd comme sur Compostelle, donc c'est plus léger, mais c'est plus physique aussi parce que souvent on emprunte des sentiers qui comportent des dénivelés et que le cœur, à un moment donné, se met en chamaille. On se dit, OK, on va prendre une pause, on va prendre une petite collation ici, là. Mais c'est toujours des moments là, tu sais, de grande présence à la nature où la conversation, elle est présente, mais seulement au point de repos à certains endroits où lorsqu'on arrive au sommet puis qu'on se trouve à prendre une collation, où là, on échange, on partage.
Sinon, il y a des grands moments de silence, oui, d'intériorité.
Tout à fait, tout à fait.
C'est ça, de méditation.
Oui.
Aussi.
Oui, ben, et moins que lorsque je marche seul,
oui,
mais il peut y en avoir également. Là.
Guy, est-ce que la marche mène à la simplicité?
Ben, moi, je pense que la marche, elle est simple.
Elle est simple.
Donc, c'est clair, étant simple, elle nous amène dans la simplicité. Puis en même temps, la marche est un bouleversement du rapport au temps. Dans le sens que nous vivons dans une vie trépidante, fortement accélérée, stimulée de part et d'autre, avec beaucoup d'emphase sur le matérialisme et la consommation. Et la marche, s'adonner à la marche, c'est de se reconnaître dans une action simple et d'y prendre plaisir. Donc, une forme de suffisance et de bien-être qui découle de cette activité-là, puis pour laquelle on ressent un bénéfice là, quand même assez rapidement. Donc,
c'est l'antidote au rythme effréné d'une société moderne.
Tout à fait. Et je pense que les gens qui ont marché durant la pandémie sur une base régulière, la marche a fait partie de leur résilience.
Est-ce que ça peut changer le quotidien, vos habitudes de vie, vous simplifier votre vie?
Ben, c'est sûr que lorsqu'on prend 2 heures, 3 heures à marcher dans une journée, il y a des choses qu'on doit laisser tomber.
Oui.
On peut pas tout faire dans la journée, là, tu sais. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de faire des choix. Et dans le temps qui nous reste éveillé, on s'organise pour s'attarder aux choses qui nous sont les plus chères, qui nous sont les plus importantes. Ça implique des fois d'accumuler un certain nombre de choses sur notre table, à dire « OK, ça, je le ferai, ça, je le ferai », mais ça nous force quand même à faire un exercice de priorisation, à dire « Ben, tu sais, je vais m'attarder là-dessus davantage, puis j'en ferai moins parce que c'est clair que la marche, c'est pas un compromis, c'est une nécessité. » Dans le sens que je fais pas le compromis de marcher. Je privilégie, je priorise de marcher et avec ce qui s'ensuit sur le plan de laisser de côté certaines choses.
C'est un retour vers l'essentiel?
Oui, ça nous y amène. T'sais, on a toujours besoin de continuer à élaguer. Pour moi qui est très investi dans le domaine du vieillissement,
oui,
il est clair que marcher avec la simplicité que ça comporte contribue à un plus grand allègement. Et l'allègement est un aspect de vie qui est souhaitable d'acquérir, de développer, d'acquérir et de consolider en vieillissant. Je me souhaite vieillir le plus possible léger. Là, je ne parle pas physiquement. Je le suis passablement.
Passablement, oui, oui.
Mais
dans les possessions, vous parliez des vêtements, là, toutes sortes d'habitudes au quotidien qui deviennent de plus en plus simples.
Porter les mêmes vêtements, je parlais de ça lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, porter les mêmes vêtements pendant 6 jours, 10 jours, à les laver, bien sûr, le matin, avant de les remettre. Je vais porter un vêtement d'intérieur pendant que mes vêtements que je porte habituellement sont en train de se faire laver et sécher. Mais ça me dérange plus du tout de porter les mêmes vêtements pendant X nombre de jours. Donc, tu sais, le concept de mode, tu sais, on vous promenez sur les rues commerciales,
oui.
Puis vous regardez de saison en saison, qui sont même pas des saisons qui se vivent, c'est des saisons qui s'anticipent. Parce que ce qui est dans les vitrines, c'est toujours des vêtements de la prochaine saison. Donc, tu sais, on s'organise pour créer des besoins sur le plan de l'anticipation, du désir de vivre l'été. Enfin, l'été s'en vient. Mais puis au mois de mars, on a des costumes de bain dans les vitrines, oui, des commerces. Moi, ça m'attire. J'ai aucun intérêt. Je vais magasiner deux fois par année, maximum, là.
Alors, physiquement, psychologiquement, mentalement, spirituellement, vous vous sentez mieux?
Oui. Oui, c'est clair que... c'est sûr, j'ai travaillé dans le domaine de la toxicomanie, comme je mentionnais tantôt, de la toxicomanie, de la santé mentale, puis de l'itinérance pendant 38 ans. Donc, j'ai côtoyé de la souffrance, j'ai côtoyé la lourdeur d'un système de santé, les défis organisationnels sur le plan de la capacité de répondre adéquatement et même davantage aux besoins de la population, puis d'être capable d'amener des travailleurs, des intervenants, des professionnels de la santé à travailler ensemble. Et ça a comporté des lourdeurs, des exigences, ça a comporté des satisfactions. Mais la vie de travail comporte son lot d'exigences et la marche est d'autant plus importante durant toutes ces années-là où on travaille. Moi, j'avais l'habitude, durant ma vie professionnelle, d'aller à quelques reprises par année à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac du vendredi midi ou dimanche midi, où j'allais faire un exercice très simple et qui comportait de la marche, mais où j'allais là pour faire le vide, le point et le plein.
Comment vous dites?
Le vide, le point et le plein.
Le vide, le point et le plein. Bonne formule.
Et c'est simple comme formule, mais ça illustre le fait que pour raviver notre corps, notre cœur et notre esprit, on a besoin, dans un premier temps, de se poser. Rien faire, s'habiter avec ce que ces trois éléments-là, le corps, le cœur, l'esprit, nous envoient comme signaux. Et lorsqu'on a pris cette pause-là, on est disposé à être capable de faire le point de notre situation. T'sais, qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui fonctionne pas bien? Ça serait quoi les ajustements que j'aurais le goût d'apporter ou que j'aurais besoin d'apporter ou qu'on me demande d'apporter? Et le troisième point, c'est vraiment le plein, dans le sens de ce sens. Et souvent, préalable au plein, à l'exercice du plein, ou en faisant partie, il y a une longue marche qui se fait. Parce que la marche, elle est énergisante. La marche en montagne, là, pour marcher 6 heures, elle est épuisante.
Oui.
Mais au retour de cette marche en montagne, là, le lendemain, on est très
réénergisé.
Oui, beaucoup. Oui. Donc, oui. Non, c'est un exercice donc, qui m'est resté en tête toute ma vie, que j'essaie d'appliquer différemment dans la place qu'occupe la marche au quotidien dans ma vie, mais qui fait du sens dans la séquence, est-ce que je suis capable, quels sont les temps dans ma journée où je me pose? Et là, je ne parle pas de me coucher dans mon lit, où je me pose dans le silence,
oui,
pour être capable de ressentir ce que mes 5 sens et que mon esprit et que mon cœur me donnent comme indication.
C'est soit une méditation de 20 minutes dans votre fauteuil ou une marche. Tout simplement.
La marche est très propice. La marche dans la nature, pour moi, elle est vraiment très, très propice à faire cet exercice d'élagage, d'allègement dans un processus où on se voit vraiment dans une belle flexibilité. Là, t'sais. On ouvre des fenêtres, on ouvre vraiment des horizons, on change de perspective. Donc, tu sais, il y a quelque chose de très vivant, de très organique, de très dynamique.
Très dynamique, oui. Voilà.
Qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de vitalité qui s'en dégage.
En conclusion, Guy, la marche mène au bien-être?
Oui, la marche mène au bien-être. Si la marche n'est pas le bien-être, mais elle en est une grande composante. Parce que le corps est fait pour marcher. C'est notre nature profonde. Tu sais, on marche pour aller à la rencontre de l'autre, on marche pour aller à la rencontre de la nature, on marche pour obtenir de la nourriture, on marche pour se sauver de la guerre devant l'envahisseur, comme on observe présentement. Donc, il y a énormément de situations qui nous ramènent à la nécessité de marcher. Si on peut, au quotidien, insérer la marche sous l'angle, non pas de la fuite, mais de s'habiter soi-même dans le bien-être, ça devient un bien précieux qu'on se doit d'entretenir à sa valeur et au quotidien.
Guy, je vous remercie beaucoup de votre partage et je vous souhaite de longues années de marche vers le bien-être.
Ben, je vous remercie beaucoup, Denis.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. J'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être vous est présenté les mardis à 22h et en reprise les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez également écouter l'émission en direct sur le site de Radio VM ou grâce aux émissions qui y sont archivées. Aussi sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez également des descriptifs et références pour chaque épisode. Je tiens à remercier nos invités d'aujourd'hui, Alexandre Perron et Guy Vermette, deux grands marcheurs au quotidien. Je remercie aussi notre jeune et vaillant technicien Xavier Gauvin. Et comme toujours, merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour marcher vers le bien-être. Je vous laisse avec cette pensée de Lewis Carroll qui fait dire à Alice, dans Alice au pays des merveilles, « Mais alors, si le monde n'a absolument aucun sens, qui nous empêche d'en inventer un? » Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.